dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots.
Le robot dans 20 ans,
je m'appelle Peter.
Je l'imagine descendre les poubelles.
Je m'en charge volontiers.
On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN.
L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie.
Aujourd'hui, l'avenir des grands singes. Une des plus grandes primatologues contemporaines et françaises. Depuis plus de 20 ans, Sabrina Krief, vétérinaire et professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, suit des populations de chimpanzés en Ouganda. Elle a monté une importante station de recherche scientifique où elle se rend plusieurs fois par an. Là-bas, après des heures de marche dans la forêt, elle aime assister dès l'aube au réveil des chimpanzés. Sabrina Krief a découvert qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils sont capables de trouver les plantes, les écorces ou les feuilles pour tuer des vers ou lutter contre la toux. Ils pratiquent l'automédication. Aujourd'hui, Sabrina Krief consacre beaucoup d'énergie à la protection des grands singes. Ils sont victimes de la déforestation, mais aussi des pesticides qui provoquent chez eux des malformations. Si on ne fait rien, ces animaux qui nous ressemblent tant sont condamnés à disparaître.
Les aventuriers sur France Inter.
Alors, les grands singes sont 7 espèces de primates non humains qui vivent soit en Afrique, soit en Asie du Sud-Est. Et donc, en Afrique, on trouve 2 espèces de gorilles, le gorille de l'Ouest et le gorille de l'Est, 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé qu'on dit commun, qui est celui qu'on connaît, hein, et le chimpanzé pygmée ou bonobo. Donc, le nom parle beaucoup plus que celui de chimpanzé pygmée. Et puis, aujourd'hui, 3 espèces d'orang-outan, avec une des espèces d'orang-outan qui a été découverte il y a à peine un an et demi. Donc un orang-outan à Bornéo et 2 espèces d'orang-outan à Sumatra.
Et ces grands singes ne se portent pas très bien, malheureusement.
Non, effectivement, donc ces 7 espèces sont toutes menacées de disparition dans un futur proche. Et on sait que leur déclin est dû aux menaces qui sont aujourd'hui très fortes sur leur habitat tout particulièrement.
Donc la forêt ?
La forêt et la forêt qui disparaît principalement à cause de l'agriculture, mais aussi à cause de l'exploitation forestière, bien sûr, pour se procurer du bois, du papier, etc., et de l'exploitation minière. À cela s'ajoute le braconnage pour la viande de brousse, le gibier, hein, qu'on mange localement, ou qu'on exporte vers nos pays, parce qu'il arrive de la viande de brousse aussi ici en Europe.
Encore.
Et pour le commerce d'animaux vivants, et ça aussi, c'est une menace qui est loin d'être tarie, puisque de plus en plus, il devient assez amusant apparemment de se faire prendre en photo avec des animaux sauvages, des jeunes animaux sauvages. Alors ça peut être des bébés chimpanzés, des bébés orang-outans, ou bien des lionceaux, etc. Et enfin, une dernière menace qui sont les maladies, parce que ces grands singes en fait se caractérisent par leur proximité avec l'humain et que notre proximité morphologique s'associe aussi à une proximité physiologique et donc ils sont aussi sujets aux maladies qui touchent les humains et ces maladies peuvent se transmettre d'autant plus facilement que les humains sont de plus en plus proches des habitats des grands singes.
Quel genre de maladie par exemple ?
On connaît bien Ebola qui fait des catastrophes sur le terrain donc qui tue évidemment beaucoup d'humains mais les premiers cas sont souvent des cas de grands singes qui donc meurent de ce virus et donc de fièvres hémorragiques. Et dans certaines régions, il y a près de 90% des populations qui ont disparu à cause d'Ebola.
Vous avez aussi constaté que les singes étaient victimes des pesticides et que ça provoquait des malformations chez les singes.
Donc dans la zone où je travaille en Ouganda, c'est principalement du thé qui petit à petit a grignoté la forêt. Et donc ces plantations de thé se trouvent à la bordure de l'habitat des grands singes, de leur territoire qui est malgré tout un parc national. Et on a environ 30% des chimpanzés qu'on suit qui ont des malformations au niveau du visage, donc le visage aplati, l'absence de narines, aussi des problèmes de reproduction. Et les autres hypothèses qui pourraient expliquer ces problèmes ont été évacuées. Donc, a priori, c'est pas un problème génétique.
Donc, ce sont les pesticides.
Il semble vraiment que ce soit les pesticides qui soient en cause.
Mais ce qui vous plaît, c'est quoi ? C'est leur mode de vie, leur personnalité, leur culture ?
un peu tout ça.
Oui.
au quotidien, en fait, c'est juste fabuleux d'être intégré dans un tel groupe, puisque on devient neutre hein, dans leur environnement et donc on fait un peu partie de leur vie familiale. Ce qui est extraordinaire avec les grands singes, c'est que aucune des journées se ressemble, tout particulièrement chez les chimpanzés où ils ont un système social très particulier. Il n'y a pas un groupe fixe au sein de la communauté qui est donc le groupe où tous les individus se connaissent. Se forment des petits sous-groupes qui changent tout au cours de la journée. Donc le matin, vous pouvez être avec Aragon et Pénélope, pour prendre un exemple des chimpanzés qu'on suit, et les perdre au bout d'une heure, mais être avec d'autres individus, et peut-être le soir, être avec un groupe de 30 chimpanzés. Et ça, vous ne savez jamais ce qui va se passer. C'est fabuleux parce que vous découvrez en fait ces relations sociales, et en même temps, vous essayez de comprendre pourquoi, en tant que scientifique, ces individus sont ensemble, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui ils vont chasser ou qu'ils vont aller peut-être se procurer du miel avec des baguettes. Et puis petit à petit vous entrez un peu plus dans cette vie et c'est juste passionnant.
Et l'univers sonore, c'est quoi ?
L'univers sonore de la forêt tropicale varie vraiment complètement d'un moment à l'autre de la journée. Donc il y a des moments où quand il fait très chaud, la forêt est relativement calme, alors que le matin, quand le soleil se lève, que les chimpanzés se réveillent, la forêt peut être emplie à la fois de cris de chimpanzés, mais aussi de plein d'autres espèces de primates, d'oiseaux, d'insectes. Et ça, c'est magnifique.
1er octobre 1951, Ludwig Karl Kohr, spécialiste de l'enregistrement d'animaux.
J'avais la chance de pouvoir enregistrer des chimpanzés qui vivaient en troupeau dans un îlot, ayant peu de contact avec des hommes. Ainsi que je pouvais observer et enregistrer les cris des chimpanzés un bon matin, avant le lever du soleil, des cris naturels se saluant comme suit.
C'était il y a presque 70 ans. Vous connaissez ces cris ?
Oui, ce sont des ululements haletants, donc des cris de longue distance qui montrent l'excitation et le plaisir de se retrouver chez les chimpanzés. Les salutations en tant que telles, souvent quand les individus sont proches, sont beaucoup plus douces et portent beaucoup moins loin. C'est des espèces de grognements. Il y a une panoplie, vraiment une gamme de communication et de vocalisation tout à fait impressionnante chez les chimpanzés. Tout ça assorti en plus d'expressions faciales, de postures, qui fait que nous, en tant qu'humains, on arrive à décrypter leurs émotions. Et c'est ça aussi qui est assez extraordinaire.
Alors, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas des chimpanzés aujourd'hui ?
Étonnamment, ça fait assez peu de temps que les scientifiques se penchent sur les chimpanzés et les grands singes en général, hein, un peu plus d'un demi-siècle. C'est dans ce même temps, en fait, que 70% des populations de grands singes ont disparu. Donc, Jane Goodall, en tant que pionnière pour l'étude des chimpanzés, nous a appris énormément de choses. Donc, on essaye d'enrichir encore ses travaux, mais ce qui nous fascine tout particulièrement, bien sûr, c'est la diversité des comportements et le fait que les chimpanzés ont ce qu'on appelle des cultures. Donc, étudier un chimpanzé en Côte d'Ivoire ne revient pas à étudier un chimpanzé en Ouganda. Ils vont utiliser à la fois des outils différents, mais aussi des façons de se comporter, donc pas médiés par des choses matérielles, mais simplement des postures, etc., différentes. Et donc, on ne peut pas décrire un comportement de chimpanzé universel.
Mais vous parlez de culture, ça veut dire qu'ils se transmettent des choses de génération en génération ?
Exactement. Ce sont des comportements, en fait, qui ne s'expliquent pas ni par l'environnement, ni par la génétique. Et ces comportements, en fait, se transmettent de génération en génération. Ils sont normés et ils sont pratiqués par quasiment l'ensemble de la communauté. Par exemple, en Ouganda, à Sébitoli, où je travaille, pour pour attirer une femelle, les mâles vont attraper des feuilles, vont les déchiqueter et faire des sortes de petits confettis qui vont crachoter comme ça du haut d'un arbre. Et ça, c'est un signal pour montrer que le mâle est
intéressé. Tiens, tu m'intéresses, toi.
Voilà, exactement. C'est le système de drague du chimpanzé de Sébitoli. Ailleurs, ça va peut-être avoir un autre sens. Et donc, pour attirer l'attention, le chimpanzé va peut-être cogner contre le tronc d'un arbre ou secouer simplement une branche ou encore mimer l'acte de copulation. Et donc, en fonction de l'endroit où on travaille, le chercheur va devoir décrypter et essayer de comprendre le sens de ces comportements.
Est-ce que vous pouvez nous parler de leur durée de vie, des familles?
Donc un chimpanzé peut vivre 60 à 70 ans en milieu naturel s'il ne rencontre pas de menaces et de problèmes particuliers de santé. Une mère va donner naissance à son premier bébé à la fin de son adolescence, donc vers 15-16 ans. Elle va porter le bébé pendant 8 mois et demi. Et ce jeune, elle va le garder contre elle, très proche, pendant 6 mois, 1 an.
Donc là,
elle va
l'allaiter,
voilà, sur le ventre. Puis petit à petit, il va commencer à s'alimenter un peu avec des choses solides tout en continuant à téter. Et le sevrage, vraiment, ne va se produire que vers 3-4 ans, quand la mère souvent va retomber enceinte et va préparer la venue du prochain. Donc l'intervalle entre les naissances peut être de 3, 5, 7 ans, avant donc que la mère ait un nouveau petit. Mais le précédent va toujours rester proche d'elle et ne va s'écarter de sa mère vraiment qu'autour de l'adolescence. Et au moment de l'adolescence, en fait, les mâles vont essayer de se rapprocher des mâles adultes, donc commencer à faire leur apprentissage de mâles puissants, alors que les femelles vont changer de communauté. Elles vont gagner un groupe voisin, donc un nouveau territoire, puisque les chimpanzés vivent donc en communauté, qui défendent un habitat, un territoire, et qui marquent les frontières en patrouillant. Donc ça, ce sont les mâles, surtout, qui font ce comportement de patrouille. Et donc, les jeunes femelles, à l'adolescence, vont quitter leur territoire de naissance pour aller gagner une nouvelle communauté. Et là, il va falloir à nouveau qu'elles rencontrent ces nouveaux individus, qu'elles se fassent accepter et qu'elles découvrent leur nouvel environnement. Voilà, en gros, comment se passe la vie d'un chimpanzé.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de tendresse chez les chimpanzés.
Oui, effectivement, on a souvent l'image assez caricaturale d'un chimpanzé énervé, violent, etc. C'est absolument l'inverse qu'on constate sur le terrain. Ça fait 20 ans, effectivement, que je travaille avec des chimpanzés. En tant que humaine, je ne me suis jamais fait attaquer par un chimpanzé. J'ai jamais eu de charge ou de menace. Et ce qu'on voit au quotidien dans leur vie entre chimpanzés, c'est surtout des interactions qui sont plutôt pacifiques. Beaucoup de tendresse entre la mère et ses enfants. Et également, quand il y a des tensions sociales, toujours une propension à les apaiser. Par l'épouillage, par exemple, donc ce comportement qu'on souvent on attribue uniquement à du toilettage est en fait un comportement social qui permet de réduire les tensions. Donc c'est des sortes de papouilles qui détendent les deux partenaires d'épouillage. Et puis, par exemple, s'il y a un conflit, on ne se quitte jamais fâché. En général, il y a toujours une réconciliation et donc on se quitte, on se sépare, mais en étant en paix.
On écoute Barbagallo, La paix.
Mes souvenirs sont flous et filent sans fin au loin de moi. Je tends la main, je les retiens. Et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre. We'll be right back. des trésors égarés, égarés aux aurores.
En Ouganda vit une population de chimpanzés que Sabrina Krief étudie depuis longtemps. Le suivi des singes ressemble à un entraînement militaire. Il faut sauter les cours d'eau, dévaler les pentes. Il faut aussi de la patience et beaucoup de persévérance pour retrouver les traces des animaux dans la forêt primaire. Sabrina Krief, primatologue, a monté un centre de recherche scientifique où elle se rend deux fois par an.
Alors, je travaille en Ouganda, dans le parc national de Kibale, qui se trouve à la frontière avec la République démocratique du Congo. Donc, on est dans une zone de moyenne montagne, à environ vers 1500-1600 mètres.
C'est beau.
C'est magnifique. Le matin, souvent, le brouillard est vraiment important. On se retrouve un peu dans ces forêts, comme dans Gorille dans la brume, hein, où il fait relativement frais. Et entre les arbres, on a des gros nuages. C'est magnifique. On a la vue sur cette chaîne du Rwenzori. Et dans ce parc national de Kibale, vivent environ 1000 à 1500 chimpanzés, protégés par l'existence de ce parc. Et moi, tout particulièrement, donc j'étudie un petit groupe, celui qu'on a appelé Sébitoli, du nom du village qui se trouve à côté, qui compte environ une centaine d'individus. Il nous a fallu 10 ans avant de pouvoir percer un peu les secrets de la communauté et d'identifier des individus et de les nommer. Clairement, aujourd'hui, on sait qu'il existe des tempéraments, des comportements qui sont spécifiques à certains individus. On ne peut pas interchanger deux chimpanzés. Ils se ressemblent pas.
Comme les humains, en fait.
Comme les humains, ou peut-être comme les chiens, hein, parce que les chiens, les chats, les chevaux, qui nous sont proches, les animaux domestiques, chaque propriétaire est capable de dire « bah mon chien, c'est pas le même que celui du voisin ». Et on a parfois du mal à penser que les animaux sauvages sont aussi différents les uns des autres. Bah, c'est le cas.
Et comment est-ce que vous travaillez? Vous partez très tôt le matin, les pister. J'ai vu des images, vous allez assister à leur réveil par exemple.
Alors pour les suivre, en fait, l'objectif c'est d'arriver avant leur réveil. Les chimpanzés construisent un nid chaque soir, un nid différent, donc ils sont nomades, et chaque chimpanzé dort dans un nid. Donc le matin, on part vers 4h30-5h pour aller au nid où on a laissé les chimpanzés la veille au soir. Et là, quand on arrive, donc on essaye de faire le moins de bruit possible, on s'assoit.
Vous partez en groupe ?
on part en groupe avec mon équipe. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 personnes sur le terrain. On ne part pas à 25, oui, bien sûr. On part en petits groupes, généralement 4 ou 5, pour perturber le moins possible les chimpanzés. Les autres personnes avec qui je travaille ont d'autres missions. Hein. Ils travaillent soit à la lutte anti-braconnage ou à la sensibilisation. Donc on part avec notre petit groupe, lampe frontale vissée sur la tête, et on attend leur réveil. Donc là, c'est un moment fabuleux parce qu'on s'assoit, on éteint nos lampes frontales et on entend la forêt petit à petit prendre vie en paix. De temps en temps, on somnole un peu jusqu'à ce que le nid s'agite et qu'on voit descendre donc les chimpanzés. Le plus souvent, là, ça commence un peu à l'excitation commence à monter, donc ils crient, ils vont rejoindre un arbre en fruits. Et donc, tout au cours de la journée, on va choisir un individu et essayer de suivre cet individu pour voir son comportement du début à la fin de la journée jusqu'au nid.
Parce que qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ? En 20 ans, vous n'avez pas trouvé toutes les réponses que vous cherchiez ?
Non, loin de là. Non. Et il y a des nouvelles questions qui surgissent pratiquement chaque jour. Hein, et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que quand on est curieux, non seulement les chimpanzés nous apportent des réponses, mais nous en soulèvent de nouvelles. Donc moi, mon sujet initial, c'est d'essayer de comprendre si les chimpanzés utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Je suis vétérinaire de formation et donc l'aspect santé m'intéresse tout particulièrement. Et donc quand j'étais jeune vétérinaire, j'ai suivi un groupe de chimpanzés orphelin qu'on avait relâché en milieu naturel, et on m'avait demandé de voir s'ils réussissaient à survivre et si jamais de les aider et de les soigner s'il y avait un problème. Et en 6 mois, pratiquement aucune maladie et des animaux qui étaient capables de se nourrir sans avoir de diarrhée, sans s'intoxiquer. Donc dès ce moment, cette question a surgi, mais comment est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils trouvent leur remède dans la forêt ? Pourquoi les assistants congolais, donc à cette époque-là, me disaient « Ah bah tiens, cette plante, nous on l'utilise au village pour traiter la toux. » Et pourquoi les chimpanzés consommaient exactement la même partie de plante ? Est-ce que c'était un hasard, une erreur, etc.
Et voilà donc, comment vous avez été happé par la famille chimpanzé.
Exactement. Et j'ai réussi à obtenir certaines réponses, donc particulièrement savoir que les chimpanzés utilisent certaines plantes pour se soigner contre la toux, les parasites digestifs, les diarrhées, etc. Mais aussi à trouver des nouvelles molécules capables de soigner, a priori, le paludisme.
Comment faites-vous ? Vous suivez un individu, vous récoltez ses crottes, je crois, vous regardez ce qu'il mange, vous voyez s'il est malade ou pas ?
Alors, dans notre suivi quotidien, effectivement, donc au réveil, c'est le moment où on peut se précipiter sous le nid avec un petit système pour récupérer les urines quand le chimpanzé fait pipi depuis son nid. Et donc là, on va pouvoir faire des bandelettes urinaires et détecter s'il y a des choses anormales dans les urines qui laissent à penser soit qu'il a une infection, soit qu'il a un problème de santé. Puis au cours de la journée, on ramasse les crottes pour essayer d'abord de voir si il y a de la diarrhée, de la constipation et s'il y a des parasites digestifs. Donc on va faire ensuite des analyses au microscope. On détaille tous les aliments consommés et surtout on essaye de voir si les animaux malades consomment des choses différentes du régime alimentaire habituel, donc du régime alimentaire des individus sains.
Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert ?
Ben, on a découvert qu'effectivement, les chimpanzés font usage de plantes ayant des propriétés biologiques. Concrètement, on ramasse les plantes que consomment les individus malades. On fait un travail de chimie, donc on fait des extraits. Ensuite, on teste les extraits sur des cibles particulières, des parasites, des bactéries, des virus. Et si cet extrait est actif, on essaye d'identifier la molécule responsable de l'activité, en se disant que non seulement on va pouvoir vérifier que le chimpanzé s'est bien soigné, mais aussi que peut-être on va pouvoir trouver des molécules utiles à la médecine humaine.
Et qu'est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris qu'ils utilisaient des antiparasitaires, des analgésiques, des coupeaux d'écorce contre la toux.
Voilà, donc ce qui est fabuleux, c'est que les chimpanzés sont frugivores et donc ils consomment en principe des aliments nutritifs avec des calories. Mais quand ils sont malades, ils vont aller chercher des morceaux d'écorce parfois très difficiles à arracher, des feuilles très très amères ou bien très rugueuses. Et ce goût particulier explique souvent l'activité biologique. En général, les aliments qu'on apprécie et qu'on mange en grande quantité sont sucrés ou sont juteux. Et ben là, les aliments qui soignent, en général, sont amères et ont un goût désagréable.
Ils le font par instinct ou ils le font par culture ?
C'est la seconde question qui s'est très rapidement posée à moi. Et évidemment, on a essayé de voir si l'individu consommateur était observé par des congénères et comment les congénères éventuellement reproduisaient ce comportement. Et il se trouve qu'effectivement, le chimpanzé modèle, c'est celui qui est 25 ou 30 ans, donc un chimpanzé adulte, qui est très observé quand il consomme des plantes qui sont très inhabituelles. Donc, il semble qu'il y ait vraiment une transmission.
Est-ce que vous avez découvert des plantes qui pourraient servir aux hommes ?
Oui, donc parmi les plantes que les chimpanzés consomment, il y en a une en particulier qui s'appelle Trichilia rubescens, donc qui est très amère et dont j'avais vu la consommation plutôt en tant qu'analgésique par un chimpanzé, pour laquelle on a découvert des molécules actives contre Plasmodium falciparum, donc l'agent responsable du paludisme. On a aussi mis à jour des molécules qui sont toxiques pour les cellules cancéreuses et qui pourraient aussi servir de modèle. L'idée étant toujours, bien sûr, d'utiliser cette structure chimique pour essayer de la reproduire synthétiquement. C'est-à-dire de ne pas aller couper toutes les plantes de la forêt pour pouvoir à nouveau retrouver cette molécule, mais bien inspirer les chimistes pour pouvoir recréer ce que la nature nous offre comme modèle.
Arizona blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross the border line. Freedom's no crime. Let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass, the everlast Arizona blue. Bloody, bloody border, no more. Sanguine Arizona rest.
Bloody, bloody border, c'était Manu Chao.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Sabrina Krief est primatologue, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle travaille dans le parc national de Kibale en Ouganda depuis plus de 20 ans. Même si les chimpanzés sont menacés par le braconnage et la déforestation, il y a de l'optimisme chez cette grande chercheuse. Les singes s'adaptent, traversent les routes avec prudence, réinvestissent la forêt quand elle repousse.
Chaque chimpanzé, en fait, a un caractère et un tempérament différent. Une communauté de chimpanzés se caractérise par l'existence d'un mâle alpha, donc qui est le mâle dominant. Ce mâle dominant peut lui-même avoir un caractère très différent. Dans la communauté où je travaillais auparavant à Kanyawara, c'était un mâle qui avait un pouvoir très autoritaire et qui avait plutôt tendance à faire des démonstrations de force. C'était Imoso. Le mâle alpha de Sebitoli, qu'on a nommé Elliot, est lui beaucoup plus doux et consensuel. C'est-à-dire que pour montrer sa dominance, il n'a pas besoin forcément de faire beaucoup de parades et d'intimidation. Il a du charisme. Et que ce soit les mâles ou les femelles, tous lui reconnaissent ce charisme et ont tendance à vraiment apprécié de s'épouiller avec lui, d'être à ses côtés. Et d'ailleurs, ça fait probablement plus de 10 ans qu'il est mâle alpha, puisque depuis le début de nos observations, on n'a pas vu de changement de pouvoir.
16 février 2004, France Inter, journal de 13h.
Le monde au jour le jour, l'homme serait-il désormais au menu des chimpanzés dans l'est de l'Afrique? Depuis quelque temps, les attaques se multiplient et les hypothèses des scientifiques, elles, divergent. Notre correspondant en Ouganda, Gabriel Kahn.
Les femmes par ici portent leurs enfants sur le dos quand elles vont travailler au champ. C'est surtout à ces jeunes enfants qui ballottent totalement sans défense sur le dos de leur mère que les chimpanzés se sont attaqués ces derniers mois. Ces chimpanzés vivent dans des forêts menacées, les forêts de Kibali et de Budongo dans l'ouest de l'Ouganda, où ont eu lieu la plupart de ces attaques, risquent en effet de disparaître sous la pression des populations environnantes. Certains scientifiques pensent que ces attaques sont délibérées. Il en est ainsi de Franz De Waal, un spécialiste du comportement des primates. Selon lui, ces chimpanzés auraient perdu leurs inhibitions au contact de l'homme et attaqueraient donc les enfants au même titre que les petits singes pour les manger. Mais la plupart des scientifiques ne partagent pas ce point de vue. Il s'agirait selon eux d'actes désespérés de la part d'animaux menacés d'extinction. En effet, la population des chimpanzés est en chute libre. Ils étaient des centaines de milliers en Ouganda dans les années 60. Ils ne sont plus que 5000 aujourd'hui. À la destruction de leur habitat s'ajoute un intense trafic. Les chimpanzés se vendent très cher sur le marché international. Ils sont pourchassés sans relâche par les braconniers.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina Krief, des chimpanzés qui attaquent les hommes et particulièrement les enfants pour les manger?
Alors pour les manger, pas forcément. En fait, ces cas étaient peu nombreux, mais effectivement ont beaucoup choqué et les populations locales et les occidentaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les deux cas, hein, à Budongo comme à Kibale, ces chimpanzés s'étaient retrouvés dans des petits fragments de forêt isolés, coupés du reste de leur groupe social. Effectivement, les femmes vont travailler au champ et souvent posent leurs bébés pendant qu'elles vont pêcher. Et les bébés crient. Donc dans les deux cas, en fait, c'était des chimpanzés qui probablement venaient peut-être piller dans le champ et se sont trouvés face à un bébé qui criait et ils les ont attrapés et les traînés et tués, mais sans pour autant forcément les consommer. Hein. On n'a pas constaté que les bébés avaient été mangés du tout.
Donc vous parlez de deux cas.
Oui, c'était des cas rares qui sont arrivés pratiquement en même temps et donc qui ont beaucoup perturbé. Ça peut se produire, effectivement, dans des contextes tout à fait particuliers, mais le journaliste explique bien que c'est souvent des chimpanzés qui se trouvent dans des situations très, très particulières. Moi, personnellement, par exemple, depuis 20 ans que je travaille avec des chimpanzés sauvages, jamais on n'a été attaqué. Mais encore une fois, une des consignes est bien, même quand il y a du tourisme, de ne pas emmener de jeunes enfants qui peuvent pousser des cris, qui peuvent soit stresser, soit faire peur aux chimpanzés, et de rester le plus calme, le plus neutre possible dans l'environnement. Qu'on est invité chez eux.
Oui, mais est-ce qu'ils vous reconnaissent quand vous les approchez?
Ils nous reconnaissent et surtout on se rend compte qu'ils nous reconnaissent parce que quand on est près d'eux, on ne suscite plus de crainte ou de curiosité. Quand un nouvel étudiant ou une nouvelle personne, un journaliste par exemple, arrive sur le terrain, on voit que les chimpanzés sont vraiment attirés par ce nouvel individu et vont avoir tendance à détailler son attitude. Et aussi, ce qui est très important, c'est de se distinguer de l'attitude des braconniers.
Il y en a encore beaucoup des braconniers.
Oui, il y a beaucoup de braconniers en Ouganda. Donc, c'est un des seuls pays où les chimpanzés et les gorilles ne sont pas consommés pour leur viande. Un peu partout ailleurs, en Afrique, c'est une viande de brousse qui est parfois commune et parfois recherchée. Au-delà de ça, même dans les pays où ils ne sont pas cherchés pour leur viande, il existe du braconnage dont ils sont les victimes indirectes. Nous, donc à Sébitoli, 25% des chimpanzés sont victimes des pièges qui sont posés pour attraper des petites antilopes ou du gibier. Et les chimpanzés se retrouvent amputés de membres. On a certains chimpanzés qui n'ont pas de bras, pas de pieds, parfois à qui il manque même les deux pieds, qui réussissent à survivre. Mais une partie meurt, bien sûr, à cause de ces pièges.
11 octobre 1982, France Culture. André Lucas, soigneur au Jardin des Plantes à Paris, raconte sa rencontre avec Diane Fosset.
On a été surpris par l'apparition du personnage dans l'encadrement de la porte, quand on est arrivé en pleine nuit, on était monté assez tard, et on a été assez impressionné par le regard et le personnage, qui était quand même assez fascinant, et qui était très froid. Le premier abord a été très très froid, très sec, elle nous a dit de nous asseoir, et elle nous a carrément demandé ce qu'on voulait faire ici, quoi, d'un air de, avec un certain dédain. Et je lui ai dit simplement, bah écoutez, j'ai entendu parler de vous. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans au Muséum d'Histoire Naturelle à la ménagerie de Jardin des Plantes. Et puis, je voulais, depuis longtemps, venir les voir sur place, quoi, et venir les observer sur place. Alors, je lui ai dit, si je peux faire quelque chose pour vous, pour vous aider, ça me ferait plaisir, quoi. Alors, elle est restée stoïque. Et elle a dit, bon, bah, d'accord. Eh bien, vous pouvez m'aider, effectivement. Demain matin, vous partez à 7h, je vous donne un pistolet 765 et puis vous allez chercher les braconniers. Alors évidemment, c'était une surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de proposition.
Alors la suite de l'histoire, c'est qu'il les a trouvés, les braconniers, et que Diane Fossé a été épatée parce qu'il avait rapporté tout le matériel qu'il avait retrouvé. Est-ce que vous devez lutter, vous, contre les braconniers ?
Oui, bien sûr. Et donc, dans notre équipe, on a une petite partie des assistants qui, chaque jour, partent à la recherche des pièges pour les détruire. La difficulté est, bien sûr, souvent que ces braconniers sont des gens pauvres qui posent des pièges simplement pour se nourrir. Et que la situation est compliquée. On est dans une aire protégée, donc qui défend les chimpanzés et les éléphants, par exemple, et qui interdit aux locaux de chasser pour se nourrir, mais aussi de se procurer des ressources médicinales ou alimentaires qui viennent de la forêt. Donc c'est extrêmement compliqué de défendre cette approche de protection intégrale de la faune aux dépens des humains qui vivent autour. Surtout que chimpanzés, éléphants, babouins vont dans les jardins pour piller les ressources alimentaires des humains.
Car donc, ils n'ont pas assez à manger dans la forêt.
Peut-être qu'ils ont assez à manger, mais en tout cas, d'avoir un maïs ou des bananiers juste à côté, ça procure beaucoup plus de calories en beaucoup moins de temps. Donc oui, c'est tellement plus facile. Donc voilà, la situation et le conflit existent. Et pour ma part, je pense que pour essayer de réduire ce braconnage, la solution est d'améliorer les revenus des gens qui vivent autour du parc.
Est-ce que vous êtes déjà senti menacé, vous occupé de ces singes depuis plus de 20 ans, vous les protégez, vous luttez contre les braconniers?
Oui, parfois, quand un braconnier est arrêté et que ça se passe mal, on peut avoir un peu tendance à se sentir menacé, mais l'objectif est toujours de discuter et d'essayer d'arriver à renverser la situation pour que ce braconnier, demain, devienne un protecteur de l'environnement.
Mais comment est-ce que vous faites? Vous employez des braconniers repentis, que vous disent-ils?
Bah, l'avantage, c'est qu'ils savent très bien trouver les pièges.
Oui. Mais est-ce qu'ils regrettent ?
Alors oui, la plupart du temps, ils regrettent. Et surtout, ils se sentent beaucoup plus à l'aise de travailler en forêt et de mettre à profit toute leur connaissance extrême de cette forêt sans risquer de se faire arrêter, d'avoir une amende, d'aller en prison. Parce qu'aller en prison en Ouganda, c'est quand même pas très agréable. Et surtout, d'œuvrer pour leur pays et les ressources de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, en Ouganda, le tourisme au grand singe est devenu une des sources de revenus les plus importantes. Et donc ça, c'est capital aussi. de prendre conscience que cette ressource, elle existe nulle part ailleurs. En fait, beaucoup d'entre eux pensent que ici en France, il y a des éléphants et des chimpanzés et ne sont pas conscients de ça. C'est pour ça que la sensibilisation et le fait de pouvoir à nouveau faire rentrer les villageois dans la forêt, dans le parc, c'est primordial comme action.
30 décembre 1985, journal d'Antenne 2.
Ce bébé gorille, né en captivité, vient de perdre sa mère spirituelle, la seule femme au monde qui les aimait, au point de parler d'eux comme de ses propres enfants. Diane Fossé était une scientifique autodidacte qui avait trouvé chez les gorilles sa raison d'être et sa spécialité. Elle les défendait avec passion, essayant de mobiliser l'opinion en leur faveur. Pour mieux les approcher et les étudier, elle imitait leur façon de se mouvoir, leur grognement, leur fameux battement sur la poitrine. Jouant avec eux, elle avait même découvert leur folle passion pour les chatouilles.
Elle était proche d'eux, elle avait les mêmes gestuels, les mêmes cris, elle était intégrée près des gros mâles, ce qui est difficile, car les gros mâles sont assez facilement, non pas agressifs, mais menaçants.
Diane Fossé s'était certainement fait beaucoup d'ennemis parmi les braconniers. Ceux-ci n'hésitaient pas, en effet, à trancher des têtes pour les empailler ou des mains pour en faire des cendriers exotiques. Diane Fossé était contestée dans le monde scientifique pour ses méthodes peu orthodoxes, mais les gorilles, eux, l'avaient adoptée. Ils sont désormais orphelins.
Est-ce que vous faites comme Diane Fossé, vous tenez comme les singes pour être en contact avec eux?
Non, en fait, par rapport aux pionnières qui étaient Diane Fossé, Jane Goodall ou Birutė Galdikas, aujourd'hui on essaye de prendre le plus de distance possible avec les grands singes, non seulement pour pas leur transmettre de maladies, mais aussi pour ne pas susciter leur curiosité et pour avoir un comportement quasi naturel, comme si on n'était pas là. Et donc, pour se faire accepter, on essaye juste de ressembler à un arbre pas intéressant dans l'environnement.
Que vont devenir les grands singes menacés par le braconnage, la déforestation et les pesticides? Pour Sabrina Krief, il n'est pas trop tard. Elle dira pourquoi dans un instant.
Non viva mia ilo. Va, non viva do tone ase, e alolo non vigne. Non viva do to agbe yawo, non viva do to agbe yawo, non viva. Mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida. Na me si ame. Dum, 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 dum. Va, no te va mi, mi ando to nase. No te va mi ando elo. Mi ando e mi ando to nase. Non lo ya o va mi ando elo. No viva mi ando. Viva do to agbe yowo, no viva do to agbe yowo, no viva. Mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivida. Na me si ame. Non non va do, non non ne ka, non non va do, non non ne ka. Non non vivida mia mia no du se sende, mia du welo, ne mia ku. Chichueda e mumbiana mesia meda no coco kudo vivi lo lo fafaro no 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 Famila, a quei agnomi giovani.
te kwa wo yanda yanto ibira na me si ame.
Vous avez reconnu forcément cette air, le boléro de Ravel, revisité par Angélique Kidjo.
Les Saventuriers sur France Inter.
Sabrina Krief vit aux côtés des chimpanzés en Ouganda plusieurs mois par an pour les comprendre et les étudier sans les déranger. Leur avenir est inquiétant, leur habitat disparaît, mais cette grande primatologue rappelle que nous sommes en Europe les principaux responsables. Nous sommes de grands consommateurs de la forêt tropicale. Il faudrait porter une grande attention au bois que nous achetons et éviter les produits qui contiennent de l'huile de palme. Les plantations d'huile de palme se font au détriment de la forêt.
L'avenir des grands singes est fortement menacé. On sait aujourd'hui donc que 70% des populations ont disparu au cours des 50 dernières années et que le rythme s'accélère encore. C'est l'équivalent, hein, de façon très pratique, d'un terrain de football qui disparaît toutes les 30 secondes de forêt tropicale, donc de l'unique habitat des grands singes.
Un terrain de foot toutes les 30 secondes.
Oui, et c'est pas juste une perte d'habitat, c'est une fragmentation de l'habitat. Donc les grands singes ont besoin d'un grand territoire pour se nourrir, pour vivre en communauté. Et donc si on le fragmente, on compromet complètement la survie de cette population. Donc l'avenir aujourd'hui est très sombre, mais l'avantage c'est que on peut agir puisque cette forêt est détruite au profit de notre consommation, puisque c'est bien nous qui consommons et le bois et les produits miniers et les aliments qui sont plantés à la place de cette forêt. On peut jouer un rôle actif et d'essayer de réduire ces menaces.
Même ici en Europe, même ici en France.
Même ici. On entend beaucoup parler de l'huile de palme, donc on sait maintenant à quel point cet effet est désastreux, cette consommation, mais aussi cet usage de biocarburants à partir d'huile de palme sur donc l'avenir des grands singes d'Asie du Sud-Est, les orang-outans. Il faut savoir que le thé qu'on boit, le café qu'on consomme aussi, le cacao n'est produit que dans des zones tropicales et en particulier donc en Afrique, et que en consommant mieux, donc ça veut dire en consommant des produits issus du commerce équitable, des produits bio, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'impact des pesticides et des intrants chimiques sur la santé de l'environnement et tout particulièrement des grands singes, en essayant de tracer des produits qui ne contribuent pas à la déforestation, on va pouvoir réduire notre impact sur les populations de grands singes. Bien sûr, il faut recycler les papiers, il faut recycler les emballages, il faut essayer de s'approvisionner en bois qui vient d'exploitation durable. Donc pour ça, on a des labels voilà, qui nous aident, le label PEFC, le label FSC. Et aujourd'hui, se met en place une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc c'est un mot un peu compliqué pour dire que la France s'engage à réduire son impact sur la déforestation en essayant d'émettre des recommandations pour les citoyens mais aussi pour les entreprises et pour les marchés publics de façon à ne pas accroître notre effet sur la déforestation.
Donc
Donc, nos modes de consommation ont des répercussions sur les forêts tropicales et équatoriales. Mais vous, sur place en Ouganda, qu'est-ce que vous faites? Vous parliez tout à l'heure de sensibilisation. Comment est-ce que vous faites ça?
Alors oui, nous, au quotidien, donc non seulement on mène des actions de recherche, mais on a aussi un rôle très important à jouer dans la sensibilisation des populations locales. Donc, on a une petite équipe qui, au quotidien, va rencontrer les enfants ou bien les exploitants de thé ou encore les personnes qui ont décidé de travailler sur une route qui traverse le parc national et de l'élargir pour essayer de, réduire leur impact sur la forêt, de se rendre compte que chaque arbre qu'ils détruisent ou qu'ils écorcent va être un manque pour ces grands singes, de faire qu'on replante et de faire aussi qu'on cultive mieux. Donc un de nos objectifs avec un projet qu'on met en place avec le Fonds français pour l'environnement mondial et nos partenaires qui sont la Fondation Nicolas Hulot ou la Fondation Prince Albert II, est d'essayer de faire une ceinture d'agriculture bio autour du parc de façon à réduire le glyphosate, les néonicotinoïdes qui sont utilisés juste à côté du parc. Par exemple, on a aussi mis en place une barrière de ruches qui a pour objectif de protéger les champs contre les attaques des éléphants. Étonnamment, les éléphants ont peur des abeilles,
ah oui.
qui les piquent au niveau des zones sensibles, autour des yeux, derrière les oreilles, au niveau des organes génitaux. Et donc, on a fait des espèces de clôtures en suspendant des ruches qui sont reliées par des câbles. Et quand l'éléphant touche le câble ou une des ruches, les autres s'agitent et les abeilles viennent attaquer l'éléphant. Mais le problème, bien sûr, c'est que comme les cultures emploient de l'imidaclopride et donc des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, nos pauvres ruches ont du mal à être actives contre les éléphants. Et donc, on voit que tout ça, en fait, est
lié,
un tout.
Ouais.
Donc, si on arrive à produire bio, à améliorer les revenus des petits producteurs, ils iront probablement moins braconner. En même temps, on aura des produits plus sains, donc qui éviteront de détériorer non seulement la santé des grands singes, des babouins, mais aussi des enfants, parce que dans le village à côté d'où on travaille, à Sibitoli, on a des enfants qui ont 6 doigts aux pieds et aux mains, des malformations faciales, des micropénis, des retards mentaux. Donc il ne fait pas de doute qu'il faut réduire le plus vite possible ces intrants chimiques et donc essayer aussi de réorganiser le foncier pour éviter d'avoir du maïs juste à la bordure du parc qui est tellement appétant pour les babouins et les chimpanzés.
Il ne faudrait pas que les derniers chimpanzés soient des chimpanzés de zoo?
Alors, les parcs zoologiques ont l'avantage de pouvoir sensibiliser les visiteurs. Et je pense que ce rôle-là, il est capital aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de présenter des spécimens juste comme ça. Il faut qu'ils jouent leur rôle d'ambassadeur. Et qu'à côté d'un chimpanzé, on ait un panneau expliquant à quel point les menaces sont importantes en milieu naturel et que ce chimpanzé qui est là en Europe aide à protéger ses congénères en Afrique. Ça a aussi un rôle dans la conservation de la diversité génétique. Bien évidemment, ça sert à rien si on ne conserve pas les habitats. On ne pourra jamais relâcher des individus de zoo en Afrique ou en Asie, si l'habitat n'est pas
bien
préservé.
Sûr.
Donc la priorité, c'est vraiment réduire la déforestation, reforester et surtout travailler, y compris en dehors des aires protégées, avec des populations locales. Il faut que les populations locales aient envie de les protéger et reçoivent des bénéfices à les protéger.
23 mars 1959, actualité française.
Eh bien oui, aux zones Mulhouse, les chimpanzés mangent. Et je vais demander au gardien qui a l'air de les soigner comme on soigne des enfants, comme on vous soigne, chers petits amis qui nous regardaient, si vous voulez venir, monsieur, c'est monsieur Koenig, je crois. Monsieur Koenig qui est tout attentionné auprès de ces chimpanzés. Voyez-vous qu'ils se tiennent très bien à table et qu'ils sont propres. Ils ont une serviette, ils ne mettent pas les coudes sur la table. Ils se tiennent bien, monsieur Koenig. Voulez-vous venir près de moi, près du micro, et m'expliquer si la soupe est bonne?
Hein? Enfin, elle a l'air d'être bien bonne parce qu'ils...
Ils sont difficiles, paraît-il.
Oui, il suffit que ça sert des goûts alors qu'ils commencent déjà à faire la mine.
Et est-ce qu'il paraît qu'il faut que la soupe soit pas trop froide, pas trop chaude?
Oui, il faut qu'elle soit assez diète, toujours la même température.
Et il mange combien de fois par jour?
Il mange 3 fois par jour.
Et avec une cuillère?
Non, la soupe, il la mange seulement l'après-midi.
Seulement
on la fait
l'après-midi.
Seulement pour faire un peu d'attraction avec elle. Autrement, il mange uniquement des légumes et puis des choses comme
et
ça.
Et je vois des fruits également.
Des fruits et des légumes, oui. Ça dépend de leur appétit, des fois.
C'est cela.
Alors c'est terminé ça, dans les zoos?
C'est terminé dans les parcs zoologiques, malheureusement. Donc les chimpanzés et les grands singes en général ont beaucoup souffert de cette ressemblance avec l'homme. Et donc, voilà, j'ai qu'un espoir, c'est que les gens soient plus fascinés par le chimpanzé dans son milieu naturel, les chimpanzés dans leur diversité, que par une femelle chimpanzé en petite robe sur un plateau de télé.
Et quand vous pensez aux singes et que vous êtes à Paris, comme en ce moment, est-ce que vous avez un animal en tête?
En fait, ça dépend un peu des circonstances dans lesquelles je pense aux chimpanzés. Donc évidemment, au quotidien, je pense au travail que je fais avec eux et souvent à mes sujets de recherche. Mais il y a beaucoup de comportements humains qui m'évoquent parfois des choses que j'ai observées en milieu naturel, voire des mimiques et des expressions faciales qui me rappellent tel ou tel individu. Et oui, chaque situation est souvent l'occasion de penser aux chimpanzés, en fait.
Sabrina Krief signe avec son mari photographe Jean-Michel Krief un très beau livre, Les chimpanzés des monts de la Lune, qui retrace 15 ans de recherche sur les chimpanzés. C'est une coédition Belin et Muséum National d'Histoire Naturelle. Sur la page des Saventuriers, nous avons aussi mis un lien sur son site. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Oui, tous les Saventuriers de l'été sont en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise l'émission avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Au programme demain, les insectes sociaux et tout ce qu'ils peuvent nous apprendre pour mieux circuler, mieux habiter ou mieux téléphoner. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À demain.